Voilà, c'est le premier épisode de la série de l'heure indigo. Je voulais d'abord commencer cet épisode par les explications en fait du projet, pourquoi d'un seul coup, d'un seul comme ça, ça apparaît dans votre champ de vision. Moi-même j'étais surprise de la sortie inopinée de ce petit conte, la naissance inopinée du compte Instagram Le Radico. Et puis je me suis rappelée que c'était pas si inopiné que ça, dans la mesure où je l'ai réfléchi, intériorisé, je l'ai laissé mûrir dans la latence, voilà, depuis un an. Donc ça peut donner l'impression que ça sort de nulle part, l'heure indigo. Et finalement, en me laissant porter par chaque nouvelle vague de ce projet, je ne sais même pas comment l'appeler. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une mission? Est-ce que c'est une démarche? Est-ce que c'est une manifestation? Je ne sais pas, mais voilà déjà le point de départ de l'heure indigo qui est totalement atypique, elle aussi. Voilà. Je voulais aussi me saisir de ce premier épisode pour vous expliquer que l'heure indigo apparaîtra à chaque fois dans le fil des épisodes du podcast Les mots qui délivrent, dans la mesure où ce serait à chaque fois une petite sortie de route, un chemin de traverse à prendre pour celles et ceux qui le souhaiteraient, toujours en lien avec les mots qui délivrent, toujours en lien avec le mot qui délivre, mon activité professionnelle principale qui me lie à vous dans les coachings, les accompagnements, la bibliothérapie, tout autour des mots. L'heure indigo va parler de quelque chose un peu plus spécifique qui est vraiment le TSA, et je voulais commencer par ouvrir ce compte, cet espace à tout le monde en fait, à toutes les personnes qui d'une manière ou d'une autre voudraient s'intéresser, voudraient plonger un peu plus dans l'univers du spectre de l'autisme. À savoir que je sais aussi que dans le mot qui délivre, c'est marrant, mais depuis 5 ans et demi, je me rends compte que c'est aussi un lieu de rencontre de cette personne porteuse d'un trouble autistique ou autre. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir vous parler de l'invisible et de le rendre un peu plus visible, ces choses, ces particularités qui ne sont pas toujours identifiées parce que tout se passe énormément à l'intérieur, ou dans le confiné, ou dans le foyer, ou dans le retenu. Voilà comment je viens à vous avec ma première histoire, qui est la mienne. Mais je ne vais pas la raconter en détail, je vais surtout aller vous parler de la démarche. Mais pour vous parler de la démarche du projet, bah, de base, je dois commencer par parler du pourquoi, qu'est-ce qui m'amène là. Et pour celles et ceux qui avaient écouté un épisode du podcast qui était Les ombres avant la délivrance, j'expliquais qu'au moment où j'attendais une réponse favorable pour la sortie de mon roman La femme seule, j'étais aussi dans un chemin où j'attendais avec mon mari un diagnostic. Enfin, on soupçonnait qu'il s'avérait un diagnostic du trouble autistique pour Gaston, mon premier garçon de 7 ans et demi. Qu'on va dire de très haut niveau, si on s'en tient aux résultats, etc. Ça, c'est le jargon toujours un peu spécial des rapports, des diagnostics. Mais de manière plus commune, on appelle ça le trouble du spectre autistique, enfin l'autisme Asperger. Je crois que ce n'est plus repris tel quel dans le DSM. Mais en tout cas, voilà, notre petit garçon est un petit aspi, comme on le dit. C'est un peu plus mignon déjà. Et j'expliquerai par la suite peut-être probablement les spécificités, mais a priori, quand on voit notre garçon, si on n'a pas cet œil de l'attention, de la régularité, du quotidien, on ne pourrait pas nécessairement comprendre de manière évidente qu'il a un profil autistique. Mais pour avoir vécu au jour le jour avec lui depuis 7 ans et demi, et ceux qui le rencontrent beaucoup plus souvent dans le quotidien, bah, finissent par se poser des questions, s'en rendre compte, et c'est comme ça que progressivement on est arrivé au besoin d'avoir des réponses et un diagnostic. Parce que l'Asperger rencontre des soucis au niveau de sa compréhension des interactions sociales, il a une autre manière de ressentir le monde, ressentir les choses, et ses intérêts sont pas sur les mêmes intérêts que les autres. Il y a plein de choses qui sont liées à l'autisme qu'on pourra développer ensemble, évidemment. Mais ce premier épisode est vraiment le lieu pour poser les intentions de ce projet et ce que j'ai envie de faire avec vous. Donc il faut savoir que au moment où nous on a le diagnostic de notre garçon, c'est en avril, et au même moment je reçois le feu vert pour la sortie de mon livre. On était parti depuis quelques mois pour vraiment être dans l'exploration des comportements et de l'attitude et de ce qui est notre fils. Ça nous a pris des mois de tests, enfin des mois de tests, il y a quelques tests, mais sur la fréquence qui ont demandé du temps et qui ont abouti à ce diagnostic. Et avant ça, ce sont des années où progressivement on se rend compte, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait, on explore, on lit, on écoute des conseils, on se trompe, et donc on a eu vraiment l'aboutissement de la découverte de qui est Gaston l'année passée. Voilà. Et au même moment, donc, je crois que la femme seule va sortir. Donc c'est très drôle de voir que à ce moment-là, j'étais soulagée d'avoir le diagnostic, mon mari aussi. On était très contents d'avoir enfin quelque chose qui venait valider nos intuitions, nos soupçons. Moi, en tant que maman, j'étais hyper contente de me dire. C'est pas hyper contente qu'il soit autiste, et quand bien même, mais c'est savoir se dire. En fait, on sait quoi. On va pouvoir avancer à partir de quelque chose qui est clair. Et tout ça m'a amené à identifier que c'est un chemin long et lent. Et voilà la latence du projet, c'est que avant que tout remonte à la surface, comme un petit ballon, un petit flotteur, pouf, qui revient à la surface, il s'est passé pas mal de choses. Et de ce fait, je ne voulais pas ruer dans les brancards et tout de suite. Déjà le crier sur tous les toits, alors qu'il n'y a absolument rien de tabou, parce que progressivement les gens ont été au courant, etc. Un peu avant, un peu après, voilà. Mais de là, poser une intention de sensibiliser, d'en parler de manière plus explicite, un peu plus officielle, je trouve que c'est important de prendre le temps de voir comment nous-mêmes on évoluait au pou à pou avec cette nouvelle donnée dans notre vie, dans la vie de notre petit garçon. Et au moment où on reçoit ce diagnostic, ben, c'est un grand soulagement parce que c'était quelques mois où j'ai été fort fatiguée, mon petit garçon aussi, parce que j'étais personnellement impliquée pour l'emmener au résultat, au rendez-vous, faire les tests, impliquée pour lire, écouter des podcasts. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai un bac plus 10 en autisme maintenant, en tant que maman, d'avoir été questionnée tellement de choses. Mais épuisée aussi parce que je sais que j'explique dans l'épisode sur les ombres et la délivrance par rapport au projet de la femme seule, mais j'étais à un moment épuisée aussi nerveusement parce que c'est des inconnus. Donc le cerveau s'emballe et rumine et imagine tellement de choses, bien et pas bien. Épuisement parce que c'était nerveusement. Bah, ça reste nerveusement challengeant de vivre avec un enfant, quelqu'un qui manifeste des besoins et spécifiques, intenses, et en tant que parent, on se donne cette mission depuis le début, depuis le jour où on a décidé qu'on aura un enfant, de l'accompagner pour son épanouissement et aussi veiller à ce que ce soit juste aussi pour ceux qui vivent autour de lui. Donc c'est nerveusement fatigant. Moi, je sais que mon système nerveux est très souvent dérégulé. Je fais plein de choses pour les réguler, notamment écrire et tout ce qui est lié aux mots qui délivrent. Donc, vous voyez, c'est lié. Et à ce moment-là, bah, j'étais vraiment dans une conscientisation aussi qu'il y a une phase de deuil qui s'entamait. Donc, c'était en janvier, il y a un an. Pas un deuil de mon fils, parce que depuis qu'il est né, c'est Gaston. Et depuis qu'il est né, c'est notre façon d'être parent avec lui. Donc on a toujours cru, c'est notre premier enfant, que ce serait ça être parent et que c'était ça être parent. Mais en fait, oui, c'est une manière d'être parent et c'est une manière d'être soi ou d'être enfant. Mais moi, je l'ai toujours intégré comme c'est entre guillemets normal. C'est comme ça qu'on reçoit la vie d'un enfant. Et dans, voilà. Et donc, j'ai compris que je n'étais pas dans une phase de deuil de qui il est. Parce que ça ne change absolument rien à comment on ressent et on vibre ensemble à la maison, à l'école, ailleurs, mais ça m'a appris à identifier depuis l'année passée où j'étais fatiguée, épuisée, où je suis allée chez ma psy pour dire oui, il y a un truc, il y a une grosse boule de poils qu'il faut que je sorte encore une fois. Ça faisait quelques années que j'avais plus été, mais là je sentais qu'il y avait un truc qui montait. Et en fait, acter l'épuisement, la nervosité, la fébrilité liée à l'hypervigilance, au questionnement, au doute, à l'attente, c'était avant le diagnostic. Et c'est pour ça que je le précise, parce qu'après le diagnostic, c'est une régulation du système émotionnel dingue pour tout le monde, pour lui, pour nous. Au moment où je suis chez ma psy en amont du diagnostic, c'est là que j'acte mon épuisement, qui me dit en fait, qui vient me dire, toute ta vie, toute celle de ton enfant, tu es dans ce chemin. Je ne sais pas encore exactement l'étiquette, le panneau officiel du chemin, ou la carte du métro, je ne sais pas, mais en tout cas je sais que mon corps est en train de me dire, et mes émotions, parce que je pleure, parce que je suis en colère, enfin toutes les émotions qui sont liées à nouveau au changement et tout, ou aussi celles qui sont associées au deuil, ou en début de processus de deuil, je suis en train de sortir tout ce qui est lié à c'est comme ça, it is what it is, nous sommes dans ce chemin. Qu'importe les réponses officielles, scientifiques, neuro, je sais pas quoi, on est dans ce chemin où c'est pas toujours facile, c'est différent, c'est pas comme la maman que je vois à ma gauche, le papa, la famille que je vois à ma droite, pour être simple, avec un langage simple, et je dois acter qu'à partir de là, c'est pas une phase à traverser, comme quand j'avais la matrescence, une phase à traverser, ou un burn-out en 2018, une phase à traverser. Là, je suis en train de me rendre compte que la phase à traverser, non, c'est notre chemin de vie. À partir de là, j'intègre que il va falloir repenser sa vie, il va falloir être dans l'ouverture de ça va changer à plusieurs endroits. Et effectivement, le diagnostic est venu soutenir cette prise de conscience quelques mois après. On va faire quoi maintenant ? Ben, ça veut dire qu'on va acter que c'est épuisant, on va acter pour les parents que c'est épuisant pour notre enfant et que de là découlent toutes sortes de comportements et d'émotions. Et on va acter qu'il y a tellement de choses, grâce à un diagnostic précoce parce qu'il est petit, il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place pour soutenir son épanouissement. Donc dès qu'on reçoit le diagnostic, c'est vraiment la bouffée d'oxygène et la confirmation que, ben oui, là, c'est, il est né comme ça. Il est comme ça et on a le respecter, l'accepter, le valider. Et nous, en tant que parents, vivre, nous développer, nous déployer en fonction de ça, pour lui. Et ne pas le nier, ne pas vouloir le rejeter, ne pas vouloir le changer. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, toutes ces petites prises de conscience ont eu lieu déjà sur les 6 premiers mois l'année dernière. Et puis, la femme seule peut enfin sortir au moment où on reçoit le diagnostic. Et là, je crois que c'était plus ou moins conscient, semi-partagé avec mon mari, mais si on l'a quand même un peu dit, c'est que maintenant qu'on a le diagnostic, on va faire un break. On fait un break pour Gaston de tous ses tests. Il continue la psychomotricité relationnelle parce que tous les mercredis, même si on n'avait pas de diagnostic, on soupçonnait qu'il y avait besoin de travailler des choses au niveau des interactions sociales avec des petits camarades. Donc, il allait déjà en psychomotricité relationnelle depuis plusieurs mois. On maintient la psychomote, mais on fait des breaks au niveau de tout ce qui est accompagnement autre. Et la neuropsy qui nous accompagne pour le diagnostic elle nous rejoint que il n'y a pas d'urgence, c'est un petit garçon qui globalement en plus fonctionne, alors je mets des guillemets dans tous ces mots que je vais employer, mais fonctionne bien, évolue bien avec des parents, et ça fait toujours plaisir à entendre, qui font déjà au max tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien, donc on s'autorise un break. Et on se dit qu'à la rentrée en septembre, on préparera des choses pour la rentrée scolaire, quoi, et remettre des routines en place, parce que ça veut dire aussi des changements de routine pour lui. Ça, c'est pas toujours évident à gérer. Peut-être qu'on en parlera une autre fois. Donc, en fait, la femme seule peut être en préparation de sortie, de publication, etc. Donc, on est vraiment dans cette phase où moi aussi, je m'octroie un break, qui est que ça a été lourd à porter, lourd à expliquer à des gens de l'entourage. c'est une charge émotionnelle, c'est de l'énergie mise dans beaucoup de choses. Et donc, c'est un break pour tout le monde. Et la famille, nous, on vit un bel été, on vit des belles choses. La respiration, quand même, le diagnostic, je pense que notre enfant le sent. Peut-être qu'on est plus aussi détendu, nous. On a pu apporter des mots aussi pour Gaston et lui expliquer certaines choses avec son langage d'enfant. Et il a intégré, il a compris certaines choses aussi. Donc ça amène vraiment, ça enlève une chape de plomb. Donc toutes ces premières périodes-là, c'est un peu, je ne vais pas dire qu'on oublie qu'on a des choses à mettre en place ou quoi, on a plutôt une stratégie qui est de faire un gros break et puis de se relancer dans le plus-plus pour qu'il soit bien par la suite. Et en même moment, le timing divin, je trouve que tout est orchestré à chaque fois de manière très juste, fait qu'il y a cet espace pour que la femme seule puisse se déployer et puis sortir en octobre. Et je parle de la femme seule et je fais des liens avec le parcours littéraire et mon parcours d'autrice parce que les deux étaient liés. En sachant que au moment où j'étais chez ma psy, j'étais épuisée, je me dis je vais arrêter l'écriture. En conscientisant ce chemin dans lequel on est pour toute la vie, notre vie de parents, sa vie de Gaston et de son frère aussi, qui est lié dans cette systémique familiale à tout ça, je suis aussi en train de me dire mais alors j'arrête d'écrire et j'arrête mes projets perso parce que. C'est le mode maman ours qui se déploie. En fait, je vais dégager tout mon temps, toute mon énergie, tout pour que cet enfant aille bien, quoi. Mais en fait, heureusement, on a vite fait le tour. On s'est rendu compte que. Ben, je me suis rendu compte que c'est ma respiration. C'est là où je puise de la force, de l'énergie. C'est là où j'ai cet espace aussi pour exprimer certaines choses et me relier et revenir renforcée dans mon rôle de mère pour tout ça. Donc, la femme seule, c'est super OK d'avoir cet espace pour le faire vivre, le ressentir, même au niveau collectif et familial. Mes enfants, je crois, ont pris beaucoup cette aventure aussi et ont compris aussi des choses un peu plus de leur maman. Et j'en viens tout doucement au pourquoi le projet Leur Indigo, mais vous voyez, je prends le temps parce que c'est un temps long. Le parcours de la vie dans le spectre autistique, c'est un temps long et lent pour le découvrir, pour l'appréhender, pour le connaître, soit quand on est dans ce spectre-là, les gens autour qui veulent être partie prenante dans cette vie chouette, hein, vraiment chouette et belle, tout est lent. Donc je vous prends le temps, ça fait plus de 15 minutes que je vous explique tout ça pour arriver au projet, parce que c'est pas du jour au lendemain que je me lance dans leur indigo. Et en fait, on arrive quasiment à la première vague de promo, la première vague de la femme seule qui retombe un peu, la promotion littéraire, les super super ondes, y compris pour mes enfants. Je vois qu'on est encore dans une période un peu dorée, comme ça, où tout se passe bien. Et je parle de période dorée parce que c'est souvent comme ça dans le parcours avec un enfant déjà, mais avec un enfant porteur d'un trouble, c'est qu'il y a des moments de suspendus là où tout se passe bien, on est dans une heure dorée, on vit bien en osmose, et puis il y a toujours un couac qui va faire qu'à un moment donné ça dérape et qu'il y a un déchargement d'émotions, il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a un moment plus tendu pour notre enfant. Mais là, on est dans une belle période. Et en janvier 2024, donc il y a 2-3 mois, la première parenthèse, la première vague liée à la femme seule et à cette belle période professionnelle, familiale, se ferme tout doucement et une autre se réouvre sur 2024. Et là, je sais que reprendre. Il y a des choses à reprendre. Donc, entre-temps, on avait instauré aussi des accompagnements en logopédie, au centre logopédique et psychologique universitaire, donc avec une orthopédagogue qui le suit, qui travaille des petites choses avec lui pour qu'il soit. En autonomie pour gérer ses émotions, c'est inhiber des comportements agressifs, apprendre à se mettre à la place des autres, à comprendre les émotions des autres. Donc tout ça se fait en parallèle de la vie de la femme seule, mais dans ce chemin d'intégration de ces parties pour toute notre vie, presque 9 mois après le diagnostic, un an après j'acte que je suis épuisée et qu'il y a des choses qu'il va falloir reparamétrer dans ma vie. Au service de mon enfant et de ma santé mentale et de mon bien-être aussi, je réalise qu'il y a encore une démarche à faire qui est une démarche de remplir un dossier de l'AVIC, qui est un dossier vraiment. C'est quoi? C'est l'agence de l'éducation, de la qualité du bien, qualité bien-être. Donc en gros, la FIC, c'est un dossier qu'on remplit par rapport à la mutuelle aussi pour et aux médecins conseils et tout pour avoir en fait des soutiens, des aides, qu'elles soient en temps, en argent, en reconnaissance d'un trouble, d'une invalidité, pour se sentir moins seule dans cette aventure et avoir des respirations à des endroits. Et là, c'est encore la dernière petite phase du déni, du deuil, ou le bon timing avec la femme seule ou quoi, ok, je ne sais pas, mais c'était l'étape à faire à ce moment-là. Et je pense qu'elle était juste parce que le fait de remplir ce dossier nous a demandé, m'a demandé, parce que c'est moi qui ai pris en charge ce travail, en totale confiance avec mon mari qui lui prend en charge d'autres choses dans la répartition des tâches de n'importe quel couple parental, j'espère, le plus équitable possible. J'ai pris vraiment ce souhait de remplir le dossier moi-même. Ça veut dire retracer à travers des questions toute l'évolution de notre enfant, à chaque moment ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est compliqué pour lui, qu'est-ce qui est compliqué pour nous. Quels sont les changements dans nos vies, qu'est-ce qui se passe avec lui et les autres, qu'est-ce qui se passe avec lui au niveau de l'équipement, de l'accompagnement. Et rien que de remplir tout le dossier suivi depuis qu'il est né, je me suis dit waouh, waouh. C'était un peu douloureux, un peu éclairant, un peu fatigant, mais aussi remuant de me refaire tout le parcours de la vie de mon fils à travers un dossier hyper institutionnel où il fallait obtenir un score. Et en fonction du score, on aurait droit à telle aide, tel soutien. Donc c'est très compliqué, je trouve, de remplir ce genre de dossier. Mais ça m'a permis de me rendre compte, voilà tout le chemin. J'ai pris 2 mois et demi. Je l'ai rendu ici avant le 30 mars. Donc en fait, j'ai pris entre 2 mois et demi et 3 mois pour remplir un dossier. 3 mois pour remplir un dossier. Pour expliquer à certaines personnes, des experts, qui est mon fils. Quel impact ça a dans sa vie, quel impact ça a dans la nôtre, et valider, avoir eu besoin de reconnaissance de ça. 3 mois. Et franchement, on s'est amusé à compiler tous les accompagnements, tous les frais engendrés, tous les aspects de sa vie. C'est comme si on avait décortiqué toute sa vie en fait. Parce qu'il faut prouver pour obtenir ces fameuses aides. Donc non seulement je prends conscience du parcours, je me dis waouh! On a fait tout ça, quoi. Il a pris tout ça, il a appris tout ça, donc c'est beau. J'avoue qu'il y a eu des moments de pause, hein. J'ai pas mis 3 mois tous les jours, H24, mais c'était des moments dans mon timing professionnel, une heure par-ci, une journée par-ci, frapper aux portes de chaque spécialiste pour avoir des attestations, des preuves de fait d'avoir assisté à ces séances, des preuves de remboursement. Donc en fait, je vais vous épargner aussi tous les détails, mais c'était vachement chiant, quoi. En fait, clair, c'était super chiant et pénible. Et moi, en plus, qui ai aussi des atypies ou des quirks, bah, des endroits où je suis un peu bizarre aussi. Je n'aime pas remplir ce genre de choses et ça me stresse. Et je me dis toujours que si je le fais mal, s'il y a un truc qui est mal coché, ça n'ira pas. Et donc j'étais un peu dans un état un peu de, à la fois maman warrior et en même temps maman hyper anxieuse. Et donc c'est un dossier qui vient soulever beaucoup d'émotions, de me dire on en est là. C'est encore une dernière étape qui vient valider que c'est un chemin à vie, parce que ce dossier va reconnaître quelque chose de qui il est et de ce que ça va avoir comme impact dans sa vie, indirectement dans la nôtre, mais aussi dans sa vie. Et donc il y a toutes ces émotions qui surgissent et qui pour moi commencent à enlever le voile de latence. J'ai besoin d'exprimer, de partager ce chemin. Il est tellement présent dans ma vie, il est tellement présent dans notre vie, à tous les quatre, mes 2 enfants, mon mari et moi, mais j'ai l'impression si peu, heureusement de plus en plus, parce qu'on s'ouvre, on en parle, les gens aussi curieux osent poser des questions, mais c'était quelque chose de tellement au centre de nos vies, beaucoup de choses de notre quotidien tournent autour de ça et on n'en parle pas. Et je viens de sortir d'un roman où je démystifie des choses de la parentalité, de la maternité, de la vie de femme, et en même temps je sens une incongruence parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit, quelque chose qui est énorme dans notre vie et qu'on n'a pas encore véhiculé. Donc le fait de remplir le dossier avec toutes les émotions, encore le stress, l'énergie que ça soulève, me fait prendre conscience, tellement je suis acculée dans aussi la deadline, dans la colère encore que ça soulève à certains endroits. Pourquoi devoir prouver absolument, je comprends, mais devoir prouver que mon enfant a un handicap est invalidé, alors que dans mon état d'esprit, ce n'est pas ça, c'est un trouble. Donc là, on est vraiment sur la linguistique et la sémantique, et probablement que les aides, elles savent exactement vers qui elles se destinent, mais moi qui vis avec les mots, je trouve que le langage de ces dossiers, la façon dont on doit présenter notre enfant, je trouve que c'est un peu violent et ça me met en colère, parce que ce n'est qu'un aspect de qui est mon fils. Et c'est aussi l'idée que bah, pour remplir ce dossier et obtenir les soutiens et les aides, l'idée, c'est pas de montrer nécessairement que tout va bien, c'est de montrer là c'est dur, là ça ne va pas, là il y a un problème, là il faut un neuropsy, là il faut une logopède, là il faut... Enfin... Donc en fait, c'est normal. Et j'ai fait le tour de mon émotionnel, c'est normal de passer par ces étapes-là. Et merci d'être en Belgique pour avoir aussi accès à tout ça. Mais c'est chiant et c'est douloureux. Et les mots viennent à chaque fois me heurter comme ça, un petit caillou de pierre que je recevais dans la figure en me disant ça ne va pas, j'en ai marre, je veux plus ces cailloux-là dans la tronche parce que j'ai rempli un dossier en fonction de ce qui est compliqué pour mon fils. Mais là, et c'est là que j'arrive enfin là, au pourquoi de leur indigo, il n'y a aucun espace, et c'est normal, ce n'est pas le cadre, il n'y a aucun espace dans ces lignes, ce dossier où au lieu de mettre 2 lignes pour expliquer comment va mon fils, je dois en mettre 50. Tellement c'est complexe l'autisme, c'est un spectre, c'est un petit grain de sable plus un petit grain de sable plus un petit qui font qu'on a une vision globale de qui il est. Donc déjà mon dossier, je me suis amusée à rédiger des pages de texte. On dit il faut être le plus complet possible, bah, je vais être hyper exhaustive et d'un côté on n'a que 3 lignes pour remplir des cases. Bref, donc je me suis vraiment missionnée pour faire ça au mieux, mais tout ce langage me dit ça c'est ce qui ne va pas chez ton fils. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on arrive presque à la dernière étape de ce chemin de deuil et de changement et de mobilisation vers la suite de nos vies. Parce qu'une fois que le dossier est rempli, c'était le 30 mars, c'était il y a quelques jours, on verra les résultats dans quelques semaines, quelques mois, mais c'était envoyer aussi un signal au niveau institutionnel, voilà notre vie. C'était un signal fort pour dire, nous sommes inscrits là-dedans et pour longtemps. Et l'avantage, c'est que ça vient acter encore quelque chose qui vient me dire « c'est ton chemin, le deuil est en train de se boucler ». Donc ça me mobilise et à partir de là, je me rends compte que c'est à moi d'aller créer ces espaces où je peux montrer tout ce qu'il y a de beau, de porteur, de fantastique dans nos vies, quoi. Avec un enfant qui lui-même est poète, qui est hyper connecté au vivant, qui voit les choses d'une manière tellement différente et qui le ressent d'une manière différente. Et je me dis, pourquoi on ne raconte pas plus, quoi? Et il y a des films, il y a des séries, machin et tout, mais pourquoi on ne peut pas encore le montrer plus, quoi? Et en même temps, pourquoi on ne peut pas non plus raconter quand c'est pas facile? Un peu la même démarche que la femme seule, quoi. Raconter quand c'est pas juste. Raconter quand ça bouffe ton système nerveux, le sien, le nôtre, etc. Mais le point de départ, c'est que ce dossier est enfin fini. Et en concomitance de la clôture du dossier, quelques jours avant qu'il soit vraiment clôturé, ben voilà, je lance la première impulsion avec le compte Instagram Leur Indigo pour aller raconter dans le beau, quoi. Moi, je veux pas un autre chemin, en fait. Je veux rester dans celui-là. Je veux pas vivre une autre maternité. Je veux pas un autre enfant. Ça m'apprend tellement. Je n'ai jamais eu autant de courage de ma vie. Je n'ai jamais autant défendu mes limites et surtout celles de mon enfant et ses besoins et mes besoins, même autour de moi, même quand ça me fait pleurer, même quand parfois ça a pu mettre de la distance ou des silences avec certaines personnes. Je ne veux pas changer de chemin. C'est fantastique. Et j'ai envie d'aller vers ça avec vous, sous l'eau, sous l'océan, pour voir la lumière, quoi. Les coraux qui brillent, qui scintillent. Et c'est ce que notre enfant nous montre à voir depuis le tout début. Avant ou après diagnostic, c'est ce qu'il nous montre à voir depuis le tout début. Et que son frère est né et a rejoint l'aventure, c'est encore d'autres nuances d'indigo. Avec ce que ça amène chez un frère ou une sœur. Ce que ça amène chez les gens qui vivent régulièrement autour de cet enfant. Les mobilisations, le changement intérieur chez tellement de personnes. Chez mes parents, chez mon père, ma mère. Des gens qui ont rejoint notre cercle amical et intime grâce à ça aussi. Pas que, mais qui ont compris ça instantanément et on se sent à la maison tout de suite. Donc ça, c'est beau. Voilà leur indigo succès. Ça va être raconté le beau. Et le vrai est parfois le plus inconfortable. Donc comme ce que j'ai toujours fait avec le mot qui délivre finalement. Et mes démarches littéraires et à votre service aussi de vos partages de récits. Donc ça veut dire que leur indigo va me permettre aussi de créer un chemin de traverse qui est que le mot qui délivre, tout ça a été créé aussi pour être à votre service, pour vos projets, vos récits. Et j'avais peur à un moment donné, mais c'était une peur qui amène des bonnes prises de conscience. J'avais peur que le fait de partager tout ça sur le mot qui délivre teinte un peu trop ce message envoyé qui est que je suis là à votre service pour vous soutenir vos récits, vos témoignages et votre art, quoi. Donc je trouvais ça juste, non pas de dissocier, mais de créer un espace, une alcôve, voilà, dans une belle maison, une alcôve, un hall, une galerie qui serait celle de leur indigo. Donc leur indigo est clairement lié. Elle est dans l'arbre généalogique, familial du mot qui délivre, mais c'est l'aspect un peu plus qui veut vraiment venir rencontrer, comprendre, qui veut se sentir aussi retrouvé dans quelque chose qu'il vit au quotidien, à travers ses enfants, lui-même ou son entourage. Parce que, je vous l'ai dit, j'ai inauguré l'épisode comme ça, c'est incroyable de voir que depuis que le mot qui délivre est né, c'est comme s'il était un aimant à personne atypique, un aimant à clairement des personnes porteuses du trouble de l'autisme. Et donc, j'avais jamais intégré à quel point, avant le diagnostic de mon fils, tous les signes étaient ajoutés les uns aux autres pour me dire « T'as pas encore réfléchi, pourquoi pourquoi ?» Le pourquoi ces personnes et ces rencontres se mettent à travers les mots. Et donc c'était marrant parce que la veille du diagnostic de mon fils, il y avait aussi un nouveau coaching que j'ai accueilli avec une nouvelle personne qui me dit de but en blanc, ah ben voilà, moi je viens de découvrir que je suis porteuse du trouble Asperger, ok. Et puis je vois qu'il y en a une deuxième, une troisième et je me dis waouh, incroyable. Et autour de moi, les gens osent de plus en plus dire, voilà, je suis comme ça, et voilà, et assumer ses limites, assumer ses besoins, et les porter aussi comme quelque chose qui crée une diversité incroyable. Donc pour moi, leur indigo est vraiment lié au mot qui délivre, c'est pour ça qu'elle se passera à chaque fois dans le même feed du podcast. Alors qu'est-ce que j'ai envie de faire avec leur indigo? Ben, je vais vous le dire en deux mots très simples. Il y a vraiment deux sujets qui m'intéressent, c'est sensibiliser. Je pense que sur ce chemin d'un an de découverte, de deuil, de prise de conscience, d'actes, de plein de choses, je me suis tournée grâce à Instagram et au monde anglo-saxon sur des comptes et des sources, des ressources, principalement anglo-saxonnes et de l'Amérique du Nord, où je vois que il y a tellement de mamans, de parents qui partagent des chemins vraiment beaux et qui font que je ne me suis pas sentie toute seule quoi, dans ce chemin de la parentalité indigo. Et ça m'a fait tellement bien, et tout est en anglais. Et en plus, dès que je voulais partager un truc, c'est en anglais. Alors, il y en aura toujours partagé de temps en temps, mais... Et je me dis, où est la francophonie? Heureusement, j'ai trouvé des ressources intéressantes que je partagerai aussi. Il y a des comptes français de plus en plus. Il y a des belles choses qui se passent. Mais je me dis, j'ai besoin moi-même, au niveau belge, c'est français, au niveau de Liège, autour de chez moi, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de ça près de moi, à côté de moi, dans mon quotidien. Donc on va tendre une perche parce que la dernière chose que j'ai pu voir avec ma psy lors des dernières séances, il y a un an, par rapport à acter le fait que ma vie c'est ça, et le chemin c'est ça. Le résultat, c'était que ben, globalement, je ne m'en sors pas si mal. Je suis assez ancrée, j'analyse bien les choses. Attention à l'épuisement, mais ça, toujours. Mais la petite chose à mettre en place, c'est peut-être cet espace où on peut décharger, où on peut dire... Donc, elle mentionnait l'idée d'un groupe de parole. Donc, je me renseigne, je regarde. Et en fait, tout ce que je trouve, c'est à Bruxelles, hyper loin dans le Hainaut. Et je me rends compte que, comme toujours, comme ce qui s'est passé avec le Slow Reading Club, et puis les ateliers d'écriture et autre chose, je vois qu'il y a quelque chose qui manque, qui me manque, près de chez moi, et qui n'existe pas. Donc, il y a une grande période de négociation. Je me suis dit, ok, je peux le créer, mais est-ce que je vais encore le faire alors que j'ai déjà dû déléguer le slow reading, j'ai déjà dû faire tellement de choses. Est-ce que je vais encore créer un nouveau compte? C'est schizophrénique, quoi, des notifications, des trucs. Enfin, et en fait, après une grande période de négociation de 2 mois, en fait, c'est oui, hyper oui, je le fais. Sensibiliser, j'ai besoin de dire, j'ai besoin qu'on soit dans le vrai autour de ça aussi. J'ai besoin que ce soit juste. Pas banaliser, mais que ça commence à faire partie de nos vies, comme n'importe quelle autre chose peut faire partie de nos vies, quoi. Voilà. Parce que c'est ça, en fait. Et si on le met sur le côté, dans la marge, et que nous, on veut le défendre comme un truc dans la marge, ça va à chaque fois rester, ah oui, eux, ils veulent absolument défendre l'autisme, et ils vont vivre que par rapport à ça. Non. L'idée, c'est que ce soit un truc qui se mélange à tous les autres poissons de l'océan, quoi. Il y a tellement de choses, de profils différents et riches. C'est un spectre aussi. Donc il y a beaucoup plus de personnes qu'on l'imagine là-dedans, mélangées à toutes les autres. On est tous uniques et fantastiques. C'est ce que je dis à mes enfants. Et c'est ce que j'ai pu dire avec d'autres mots à Gaston quand on lui a expliqué qu'il était porteur d'un trouble de l'autisme. Et on a résumé avec unique et fantastique. Il a dit, ah ça j'adore. Donc voilà, j'aimerais qu'on se dise tous ensemble, ça j'adore. Et qu'on soit dans quelque chose de vraiment léger par rapport à ça. Même si, effectivement, pour sensibiliser le magique, le beau, le poétique, le porteur, le résilient, la solidarité, tout ce que vous voulez, ça n'empêche qu'il y aura aussi des moments où on va pouvoir aussi raconter ce qui n'est pas toujours évident, bien sûr. C'est aussi grâce à ça qu'on prend conscience de la différence de l'autre et de comment aussi pouvoir se mettre à la place de l'autre, dans tous les sens du terme. Et aussi rappeler une chose, c'est que leur indigo, ben j'ai choisi le mot indigo pour des notions un peu spirituelles qui m'appartiennent, mais une amie m'a rappelé il n'y a pas longtemps, et ça rejoint vraiment ma volonté, de bien rappeler que on peut y annoter toute interprétation, toute poésie qu'on veut, on ne pourra pas non plus enlever le fait que c'est vraiment un diagnostic médical et que c'est quelque chose de cognitif, voire même génétique. La personne est née comme ça, elle est née calibrée et paramétrée comme ça. Donc ça, on ne reviendra pas dessus, c'est non négociable. Et c'est quelque chose aussi, je vous l'envoie pour vous rassurer, qui reste bien dans mon esprit. On va pas partir dans un truc New Age non plus. Voilà. Et le deuxième aspect qui m'intéresse, c'est, je reviens vers une question que Juliette Mogenet portait dans son podcast « Comment j'ai retrouvé ma mère », mais qui pour moi résume beaucoup de choses et qui va dans la même philosophie que ce qui était fait avec la femme seule. Qui prend soin des gens qui prennent soin? Moi, je me rends compte que je me suis retrouvée il y a un an chez ma psy, alors que globalement, je vais bien, comme je pense, je suis épanouie, etc. J'ai pris des décisions qui sont justes pour ma vie, je me sens vraiment épanouie, etc. Mais épuisement, dérégulation du système nerveux, charge émotionnelle. Qui prend soin des gens qui prennent soin? Des mères. Ce sont essentiellement les mères. Mais des pères, moi, je vois que ça vient nous chercher au niveau du couple, de l'équipe parentale, encore plus que. Et on en a fait une force, heureusement, mais qui est venue nous chercher, qui est venue mettre en péril à des endroits aussi certaines choses. Qui prend soin des pères et des mères, des aidants proches? Qui prend soin de la famille atypique et qui prend soin du couple? Moi, je pense que quand je vois les statistiques, je vois que c'est beaucoup des mamans solo aussi. Donc, vous voyez, je commence un peu à m'emballer. Il y aura aussi des moments, je vais m'adresser à ces questions-là aussi. Qu'est-ce qu'il faut être solide, solide, solide pour accompagner un enfant déjà? Qu'est-ce qu'il faut être solide si c'est un adulte qui est porteur d'un trouble pour apprendre à se connaître, à s'affirmer, à s'assumer, à envoyer les signaux aux autres? C'est super important tout ça, donc j'aimerais vraiment y aller. Et je veux pas qu'on soit dans un truc non plus. Autocentré, autisme, autisme pur. J'aimerais vraiment que ce compte soit dans l'ouverture à toutes ces discussions qui peuvent être universelles, qui peuvent s'adapter à n'importe quel profil unique, spécifique, chaque être humain, quoi. Voilà. Je pense que les ponts vont être créés là aussi. Et enfin, ça c'est à titre très personnel, leur indigo, je voulais vraiment que ce soit un espace safe. Et peu importe le nombre d'abonnés, peu importe le nombre d'écoutes, podcasts, je n'en ai rien à kicker. Vraiment rien à kicker. Ce que je veux, ce soit l'espace où, qui soit rejoint par les personnes qui sont super attentives, curieuses, un cœur hyper souple, un cœur qui est prêt à entendre tout, quoi. Voilà. Parce que moi, j'ai besoin de pouvoir dire les choses sans avoir l'impression que j'embête les gens, sans avoir l'impression que je crée cet espace et que je prends toute la place avec ça. Voilà pourquoi c'est sur le côté du mot qui délivre aussi, et même de ma vie familiale, personnelle. Ceux qui veulent aller là, bienvenue. Ceux qui ne vont pas nous rejoindre, c'est pas grave. Moi, j'avance avec ceux qui viennent dans l'aquarium et dans l'océan. Voilà. Et ce n'est pas un anti, ceux qui ne sont pas intéressés. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de pouvoir en parler, quoi. Et se sentir plus léger, et se sentir plus normalisé dans un truc où il n'y a pas de normalité, justement. Moi, j'ai le besoin de pouvoir expliquer des choses sans se dire « elle se plaint, elle est dans la complainte, elle s'apitoie ». On peut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et en même temps, pouvoir aussi mettre l'accent sur des fiertés, des zones belles, quoi, pour vous et pour moi. Et la dernière petite chose, c'est que mon objectif, mais qui va être dans la lenteur, vu que c'est un side project, c'est un projet sur le côté, un projet de cœur, je m'autorise à être dans la lenteur, dans l'imperfection. Ce podcast, je ne sais même pas s'il va être bien monté, bien édité, bien... Je bricole en fait, je bricole tout. Dans la mesure où j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour ma vie familiale, j'ai besoin de temps pour mes activités qui me tiennent vraiment à cœur, d'écrire, vous accompagner. J'ai besoin de temps de récupération, tellement de temps. Je pense que je ne vous ai jamais expliqué à quel point dans ma vie quotidienne, j'ai besoin de temps juste pour récupérer des choses qu'on vit avec notre enfant et notre famille. Et donc, ce projet, il est là. Après 2 mois de négociation, je vous l'offre. Je vous l'offre au monde. Mais ce sera tranquillou, sans pression. Vraiment avec cette idée que la perfection, elle va aller à la poubelle. Parce que tout est imparfait autour de nous, de toute façon. Et j'aimerais, dans cette lenteur, poser 2 choses qui seront dans la vraie vie. Créer un groupe de partage de paroles en visio et ou en présentiel. Les 2 seront probablement en phase quand, je ne sais pas, mais avant 2025. Et à la fin de l'année 2025, l'objectif ultime, rejoint par ma famille, mon père, ma mère et d'autres, ce sera de créer une ASBL. Voilà, je trouve que c'est l'espace juste, l'ASBL, pour aller développer ces activités-là. Et bien sûr, in fine, toujours l'envie d'écrire ce 3e livre autour de ça. Et je pense que cette exploration, cette expérimentation et ces échanges vont nourrir bien plus que je le soupçonne encore l'écriture de ce 3e livre. Bien, alors la dernière chose, l'heure indigo, c'est parce que le bleu, c'est vraiment la couleur qui représente le spectre, le TSA. J'ai une amie qui avait partagé un titre et un texte qui parlait de l'heure bleue. C'est l'heure qui est entre la fin de la journée et le début de la nuit. Cette heure un peu... Ouais, pas encore nuit, quoi. Vraiment bleu roi, comme ça. Et je trouvais ça tellement beau. Mais je me disais... Bon, déjà, c'est utilisé souvent, mais je voulais aussi le renverser la perspective. Parce que l'heure bleue, on va vers la lumière de la journée, vers le sombre et la nuit. Moi, j'avais envie de renverser la perspective et donc d'appeler ça l'heure indigo. Comme cette heure avant l'aube, on sort de la nuit, on sort un peu des ombres de quelque chose qui est un peu inquiétant et on va vers la lumière avec toutes ces nuances différentes quand le matin arrive, que ce soit en hiver, en été, au printemps. Donc l'heure indigo, c'est ça. C'est l'heure qui nous amène vers un peu plus de lumière, de conscience, de renouveau aussi. Il y avait aussi l'idée d'indigo parce que je veux pas être dans le New Age et je suis très dans le discernement, mais on m'a déjà parlé par certains canaux d'enfants indigo. Vous irez voir ou pas si ça vous parle. Il y a quand même certains aspects qui sont clairement pas avérés, mais je ressens parfois dans la façon dont je vois comment mon fils grandit, c'est que porteur d'autisme Asperger, c'est qu'il est tellement connecté au beau, au vivant. Il se pose des questions sur le vent, sur les ancêtres, sur l'espace. Il est très conscient de la respecter la terre, la nature. Il a un lien avec les animaux incroyable. Et je pense que l'enfant indigo, en tout cas, c'est quelque chose dans le spectre avec un dosage très prudent que j'ai quand même envie d'apporter et l'assumer, c'est que il y a des choses de l'invisible clairement autour de ben voilà, de ce lien entre un enfant autiste et le monde, un adulte autiste et le monde, un enfant ou un adulte, voilà, avec une façon de ressentir les choses différentes. Donc l'enfant indigo, et je pense qu'il va vraiment nourrir le monde de beaucoup de diversité. Donc j'assume, tant pis pour ceux qui ne comprennent pas, j'assumerai totalement. Et l'heure, parce qu'à chaque fois, ce sera 1 heure, un peu moins. 1 heure de podcast de temps en temps pour aller découvrir d'autres personnes. J'ai déjà des idées de personnes qui viendraient au micro. Découvrir d'autres partages, d'autres récits, pour ne pas que tout ça soit auto-centré, mais vraiment dans l'ouverture de chacun, chacune. Et 1 heure aussi parce que c'est 1 heure dans 24 heures. Ça veut dire que l'autisme, ce n'est pas que notre vie tout le temps. Il y a 23 autres heures de notre vie où on vit la vie. La vie, quoi. Et de temps en temps, il y a une petite heure spéciale, une petite crise, un petit moment de découragement ou un moment de grande victoire où on se dit c'est l'heure indigo. C'est l'heure qui nous démarque de toutes les autres dans notre vie, de notre journée. Donc j'avais envie de la partager. Et j'aimerais aussi amener une dernière notion qui est pourquoi la méduse et pourquoi le monde sous-marin? Moi, je suis légèrement claustro du snorkeling. Je suis un peu le claustro quand je vais trop profondément sous l'eau. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que l'entrée dans la parentalité ou dans le monde de l'autisme, peut-être même moi, je sais pas, je suis aussi en train d'explorer les choses de mon propre profil, mon mari aussi, pour être tout à fait honnête avec vous. Il y a une notion un peu de claustro parfois, d'être coincé, d'être oppressé par des choses. Moi, c'est le bruit, la lumière, les gens. Dans une fête où ça parle beaucoup, etc. Mais allons-y, plongeons quoi. Allons voir comment retrouver de l'espace, de la respiration dans ces choses oppressantes. Donc ça, c'est l'idée de oser descendre dans les profondeurs et de sortir de ces sentiments d'oppression. Ensuite, il y a aussi cette idée de la méduse. C'est un peu l'icône que j'ai choisie pour le profil Instagram et le podcast. En fait, la méduse. C'est déjà un être très intelligent, mais qui peut faire peur et qui pique. Et je pense toujours à mon enfant quand il est très intelligent, mais je vois que il pique, il frappe, il crie, il marque des signes assez clairs et nets de protection de lui-même et de son espace. Ça, c'est une chose, donc c'est ma petite méduse. Ensuite, il y a l'idée de la méduse qui est associée à la psychanalyse, dans la psychanalyse à la mère qui pétrifie, la mère qui empêche son enfant de grandir et s'épanouir. Et en fait, je voulais tordre le cou à ces choses qui aussi font du mal aux gens autistes et font du mal aux parents d'enfants autistes et surtout aux mères. La psychanalyse a fait vraiment beaucoup de mal à beaucoup de mères qui de base naissent avec la culpabilité, toutes les mères. Mais là, clairement, dans certains accompagnements, certains suivis, certaines explorations d'enfants autistes, il est survenu dans l'histoire très souvent que on a fait porter la faute à la mère. On a fait porter la faute au fait qu'elle soit trop protectrice. La maman coussin, coton, qui va empêcher son enfant d'aller vers les autres, de se développer. Au contact des autres, et c'était vraiment catastrophique parce que je le rappelle, même si je crois un peu au profil indigo, un peu de magie, de poésie, c'est neuro-psychologique, c'est cognitif, on est comme ça. Les paramétrages sont faits comme ça dès la naissance, in utero, donc c'est déjà, on arrête quoi. Donc vous voyez, je m'énerve aussi parce que je trouve qu'il faut tordre le cou à pas mal d'idées, pas mal de clichés. Pas mal de mauvaises idées qui sont véhiculées sur l'autisme, alors qu'il est très très présent autour de nous à plein d'échelles, à plein de degrés et nuances différentes. Et la dernière chose, ça c'est Morane qui m'a partagé, Morane Terlier, une autrice qui m'a partagé ça, c'est que la méduse, c'est aussi une peluche qu'on met dans le berceau des enfants prématurés, quoi, voilà, pour les rassurer et justement pour leur faire beaucoup de bien et s'accrocher à des choses. Donc si la méduse peut tendre toutes ces petites tentacules, enfin je sais pas comment on appelle ça, pour que chacun entre nous s'accroche, s'y accroche et qu'on se sente protégé, serein, en sécurité pour grandir ensemble, c'est très très bien. Merci de m'écouter, on arrive à la fin de cette première heure indigo. J'espère avoir expliqué tout ce que j'avais envie d'expliquer par rapport à vous. Je voulais vraiment vous remercier parce que si vous êtes là, que vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que vous faites déjà partie de cette communauté de l'heure indigo. Ça me touche beaucoup. Et j'aimerais terminer à chaque fois ce podcast, que ce soit avec moi ou d'autres personnes autour du micro, avec cette question. Quelle est cette heure indigo? Quelle est cette heure indigo où en fait, dans ce chemin, il y a un moment où tu as pu faire stop, où j'ai pu faire stop et de me dire, waouh, la beauté, quoi. L'amour, le lien, la résilience, la magie. À chaque fois, j'aimerais poser cette question-là. Donc, je vais me la poser à moi-même pour ce premier épisode. L'heure indigo, pour moi, je la vois régulièrement entre Gaston, mon grand garçon qui a Asperger, et son petit frère Alphonse, qui a 5 ans. Je la vois à des moments où Gaston n'aime pas qu'on le touche. Gaston, il faut pas venir derrière lui et le serrer dans les bras sans qu'il soit au courant. Il faut pas lui ébouriffer les cheveux. Son espace et son corps, c'est très compliqué de s'approcher de lui sans donner ce sentiment d'intrusion ou d'attaque. Et c'est marrant de voir qu'avec Alphonse qui en plus très jovial, débordant d'énergie, de besoin de contact, de toucher, il est très tactile. Alphonse, à chaque fois que. Très souvent, pas à chaque fois, mais il arrive qu'il prenne son frère dans ses bras et qu'il se fasse des mamours. Et en fait, je vois que Gaston accepte. C'est même pas qu'il accepte, c'est qu'il vit, il accueille les marques d'amour et d'affection de son frère physiquement. Et on les voit comme deux chiens fous, là, en train d'être. De faire des papouilles et c'est marrant de voir que cette heure, ce moment, ils viennent marquer à chaque fois que c'est souvent par Alphonse, grâce à Alphonse, dans leur lien très précieux qui leur appartient à eux deux, que Gaston puise des ressources qu'il va aller développer avec les autres, auprès des autres après. Donc ça m'émeut. C'est-à-dire que. Et aussi, bon, parfois, il apprend aussi à gérer ses comportements au service de son frère, en essayant d'apprendre la tristesse de son frère, d'apprendre les limites de son frère. Et je vois que souvent, il les exporte après dans d'autres circonstances. Donc, l'heure bleue, l'heure indigo, c'est tous ces moments où je vois que Alphonse est là, pas que pour ça, il est né pour lui, mais Alphonse et lui ont ce lien si précieux, si porteur dans la vie des deux, quoi. Ça me touche beaucoup. Et j'ai ce souvenir, Gaston avait 2 ans et demi quand son petit frère est né. Et c'est vrai que déjà, il n'était pas toujours allé vers les autres enfants, etc. Et je vois que quand il a son petit frère dans les bras, il y a tellement d'émotions, d'émerveillement, de magie, de délicatesse, il se passe quelque chose quand il a son petit frère dans les bras. Et je sais pas pourquoi, ça c'est l'instinct des mères. Je sais qu'à ce moment-là, il va se passer quelque chose de fort entre eux. C'est dommage de le dire, mais d'abord pour Gaston. Et c'est pas qu'il y a des préférences ou qu'on veut mettre l'accent plus sur un autre enfant, parce que c'est porteur et c'est fort pour Alphonse aussi, à plein d'endroits. On parlera des frères et sœurs d'enfants autistes un jour, parce que c'est un sujet important aussi. Je vois. Je sens, je viens d'accoucher, je les vois tous les deux, je vois Gaston qui prend son petit frère dans les bras et il y a une certitude, même avant, je pense qu'Alphonse soit né, ça va être bon pour Gaston. Il va se passer quelque chose de fantastique là. Voilà, ça c'était mon heure indigo. J'espère que derrière ce micro, je pourrai recueillir d'autres heures indigo, d'autres personnes qui ont capté cette magie, cette grâce et cette beauté dans ce chemin qui est lié au TSA, quoi. Merci beaucoup de m'avoir écouté et vivement la suite. Expérimentale, laboratoire, pas prise de tête, tous ensemble et tout ensemble. À bientôt!